Ce soir, on va regarder la Genèse 12 à 50. On regarde les patriarches d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. On a vu les semaines précédentes, enfin, sur trois séances, on a vu la Genèse, on a vu des pans très larges, Genesis. On a vu des pans très larges de l'histoire. Parce qu'on a, regardé depuis la création et tout ce qui s'en était suivi. Et ce soir, on va regarder environ 300 ans d'histoire avec ces quatre personnages. Et il s'agit principalement de l'histoire d'Abraham et de sa famille, de ses descendants. En introduction... Je voulais noter et simplement dire que les histoires dans l'Ancien Testament, des fois, on a du mal à les comprendre, parce que quand on les lit, on ne sait pas trop ce qui se passe et on a du mal à les réconcilier avec les choses dans le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament fait beaucoup référence à tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament. La plupart des études et la plupart des choses qui sont écrites dans le Nouveau Testament sont souvent basées sur des histoires et des détails de l'Ancien Testament. Et on voit que Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens 10, 11, parlant de ce qui est arrivé aux Hébreux et toutes les histoires qui sont notées dans l'Ancien Testament, il dit « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Et c'est simplement pour dire qu'on doit être encouragé et un petit peu mis au défi de comprendre ce qui se trouve dans l'Ancien Testament et d'avoir une compréhension un peu des histoires et de ce qu'elles représentent pour notre foi. Ce sont des choses qui nous permettent, nous, de nous situer en tant que chrétiens. On avait parlé de la vision que nous avons du monde. C'est quelque chose qui affecte notre manière d'agir et de vivre. Et si on a une bonne compréhension de ces choses, elles nous permettent de nous situer en tant que chrétiens à notre époque, de savoir... où est notre place par rapport à l'histoire que Dieu a pour le monde et pour l'humanité. On va voir aujourd'hui beaucoup de types de préfigurations et c'est une des choses qu'on trouve énormément dans l'Ancien Testament. Ce sont des choses où on peut comparer avec des choses qui se passent dans le Nouveau Testament. C'est des exemples, des choses qui ressemblent, qui sont des préfigurations de ce qui se passe plus tard, comme des illustrations, des concepts qu'on va voir dans le Nouveau Testament. Et on avait parlé du fait que dans la Genèse, on retrouve plein d'éléments de doctrine ou des bases de plein d'éléments de doctrine qu'on va détailler de manière plus rationnelle, on va dire logique, par Paul et les apôtres dans le Nouveau Testament, mais on les trouve dans l'Ancien Testament. Forme imagée, et c'est ce qu'on appelle un type. Ce soir, on commence avec Abraham, son histoire, qui prend presque 15 chapitres. On s'était arrêté dans le chapitre 11 de la Genèse. Et on voit la lignée avec les ancêtres d'Abraham jusqu'à Terah. Ça, c'est le chapitre 11. Et ensuite, on a l'histoire d'Abraham qui va se développer jusqu'au chapitre 25 où on va ensuite basculer sur Isaac, son fils. L'histoire d'Abraham est intéressante et très importante pour la foi chrétienne, pour la foi juive aussi et même pour l'islam. Abraham est quelqu'un qui a un lien avec ces trois religions monothéistes et on va voir pourquoi. Mais je vais commencer en racontant son histoire qui se trouve dans ces chapitres. On ne va pas avoir le temps de tout regarder en détail et de tout lire parce que ça fait beaucoup. Mais on va regarder ensemble son histoire résumée. Donc il est né dans un endroit qui s'appelle Ur en Chaldée, Ur des Chaldéens. Et chapitre 12, on voit que Dieu l'appelle à partir de chez lui, mais sans lui dire où aller. C'est un appel assez bizarre. On peut le voir, on va regarder après. Mais Dieu lui fait des promesses pour sa vie et sa descendance. Il lui dit, pars et je vais faire certaines choses pour toi. Et Abraham part avec sa famille, il part avec son neveu Lot aussi, et ils se rendent en Égypte. Ensuite, ils remontent vers Canaan. Lot va se séparer, va aller dans une autre ville. Et dans les textes, Dieu va renouveler ses promesses envers Abraham, alors que il y a certaines choses où il se dit Abraham pouvait avoir des doutes, et Dieu va renouveler les promesses. On voit plus tard qu'il y a une guerre entre 9 rois et que son neveu Lot est fait prisonnier. Abraham va intervenir pour le libérer. Après cet épisode, il a une rencontre avec un personnage mystérieux qui s'appelle Melchizedek, le roi de Salem. Et Abraham va prendre le temps de lui payer une dîme de tout ce qu'il possède. Et après cet épisode, Dieu va encore renouveler ses promesses envers Abraham. Et il va le signer un petit peu un contrat avec Abraham, avec un rituel de l'époque, avec un sacrifice animal. Et Abraham va croire Dieu. Et la promesse était basée sur l'idée que Abraham allait avoir une descendance nombreuse. Et il est à cette époque âgé, très âgé. Il est dans les 90 ans vers cette époque-là. Sa femme est âgée aussi et il se dit c'est quand même un petit peu compliqué. Et dans le doute et avec l'aide de sa femme Sarai, à l'époque il y avait une tradition qui consistait à dire que pour avoir une descendance, on pouvait prendre peut-être la servante de sa femme, si la femme était stérile, prendre la servante de la femme et avoir un enfant avec elle. Et c'était un petit peu comme si c'était la famille, c'était le remplacement, quoi. Donc c'était quelque chose à l'époque dans la coutume locale qui était normale. Et Abraham et sa femme Sarai vont essayer d'aider Dieu en quelque sorte à répondre, à accomplir sa promesse en faisant ça. Et ils vont avoir un fils qui s'appelle Ishmaël, avec donc la servante de Sarai qui s'appelait Agar. Et on va voir l'importance de ce personnage aussi. Mais Dieu lui dit non, c'est pas ce fils-là qui est la réponse à ma promesse. Et il réitère la promesse en disant, tu vas avoir un fils, toi, par ta femme Sarai. Et quand il lui refait cette promesse, il a 99 ans. Et Dieu change son nom, il s'appelait Abraham et il va s'appeler Abraham. Donc il y a ce changement de nom qui a une certaine signification. Et Dieu change aussi le nom de sa femme en Sarah, de Sarai à Sarah. Et il lui repromet ce fils et lui donne le signe de la circoncision, comme preuve, comme signe de l'alliance et comme un signe de ce peuple, comme de la descendance d'Abraham comme étant choisi. Dieu, après ça, va encore lui apparaître sous une forme, une espèce d'incarnation avec deux anges pour lui confirmer encore une fois sa promesse, et il va lui annoncer son intention de détruire Sodome et Gomorre. Et il va avoir un épisode un peu bizarre où Abraham intercède en faveur de ces villes en disant « Mais s'il y a 50 justes, est-ce que tu es prêt à épargner la ville ?» Et Dieu lui dit « Oui ». Et après il dit « Mais s'il n'y en a que 40, est-ce que tu es prêt à épargner la ville ?» Et Dieu lui dit « Oui ». Et puis il baisse comme ça. Et en quelque sorte, il intercède un peu en faveur de ces villes parce que son neveu Lot habite dans ces villes. Et Dieu lui dit d'accord, s'il y a des justes, je les épargne. Et en fait, il fait sortir Lot de la ville et ensuite il va détruire Sodome et Gomorre. Abraham, après, va dans une autre ville qui s'appelle Guéra. Et vers cette époque-là, Sarah tombe finalement enceinte et donne naissance à Isaac. À ce moment-là, il y a un petit peu des disputes et Abraham va chasser Ishmaël et sa mère. Et là, il y a un épisode qui est un type assez incroyable de Jésus. avec Dieu qui demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Il dit, bon, je t'ai donné un fils, maintenant je veux que tu me l'offres en sacrifice. Et Abraham fait le nécessaire par la foi, et Dieu l'arrête avant qu'il ne passe à l'acte, et pourvoit un bouc à la place de son fils à offrir en sacrifice. Et avec cet épisode, alors après Sarah meurt, et puis Abraham un petit peu plus tard, et après on bascule sur l'histoire d'Isaac, mais c'est l'histoire d'Abraham en très rapide. Abraham, sans le H, sans la partie Ham, ça veut dire père exalté. En quelque sorte, ça veut dire super papa, exalté. Si on veut. Peut-être, mais...
Ça, c'est le sens.
Super papa, on peut dire. Et Abraham, le nouveau prénom, veut dire père d'une multitude ou d'une foule de nations. Donc c'est le nom qui a une signification par rapport à la promesse que Dieu lui fait. Donc on a dit qu'il était né dans le pays de Babel, à Ur des Chaldéens, environ 300 ans après le déluge. On peut voir en lisant les histoires qu'il était d'une grande richesse, une grande influence, qu'il avait beaucoup de serviteurs et de biens. C'est quelqu'un qui vraiment apparaît énormément. On parle de lui 75 fois dans le Nouveau Testament. On a dit qu'il était important dans les religions, dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Dans la Bible, on l'appelle entre autres dans le Nouveau Testament le père des fidèles dans Hébreux. Et Jacques parle de lui comme étant l'ami de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui revêt une importance particulière. Et c'est, pour dire un petit peu de manière résumée, c'est que Dieu va choisir Abraham pour être l'origine du peuple qui allait pourvoir le Messie. Donc c'est vraiment un choix de la part de Dieu de dire je vais établir une nation et par cette nation et par les choses que je vais faire avec cette nation, je vais pourvoir le Messie qui va être quelque chose, une bénédiction pour le monde et pour l'humanité, qui va être une réponse à tous les problèmes qu'il y a avec l'humanité qu'on a vu depuis la chute de l'homme. On avait parlé dans la Genèse 3 de ce qu'on appelle le proto-évangile avec l'histoire du serpent qui allait mordre la descendance de la femme et la descendance de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Et Dieu commence ce projet de rédemption dans l'humanité avec le Messie par cet appel à Abraham. Et l'appel, si vous voulez regarder dans Genèse 12, les versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu lui dit, vas-y, et il va répondre en y allant. C'est quelque chose de difficile. Même avec des amis, si quelqu'un vous dit, bon ben, vas-y, on y va, et puis on a envie de savoir où on va. Et là, à cette époque-là, c'était difficile de voyager. Il part avec la famille, c'était toute une troupe, c'était pas un déplacement à la légère, il prenait pas le TGV ou l'avion, hein. Il fallait prendre des années pour faire son chemin avec les risques qu'il pouvait encourir. Et dans Hébreux 11, 8, on a une petite indication. Petit élément par rapport à cette obéissance d'Abraham où il est dit c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage et il est parti sans savoir où il allait. Par rapport à ça, c'est bon et c'est important de se dire que faut pas résister à Dieu si on sent un appel ou on sent que Dieu nous donne quelque chose à faire, de pas résister à l'appel même si on comprend pas, même si on voit pas comment ça va se passer, même si on voit pas les éléments pratiques. Dieu veut parler, veut communiquer avec nous et a des projets. Et on a une idée un petit peu de Dieu qui est peut-être un peu fausse. Je pense que moi et nous, souvent, on a un peu l'idée que soit Dieu, c'est le bon père où quand on a besoin d'une place de parking, on prie et il nous donne ce dont on a besoin, mais c'est assez léger, c'est le Père Noël un peu. Ou alors, c'est un petit peu le Père Fouettard et que si on se comporte assez bien, il va pas nous punir, mais de là à vraiment nous bénir et nous combler, on se dit, bon, quand même, faut pas trop en espérer. S'il m'appelle quelque part, il va m'appeler quelque part où je vais souffrir, où ça va être dur, en Afrique ou dans un pays dur. Et la Bible nous parle vraiment d'un Dieu qui veut nous bénir et qui veut nous combler. Dans 2 Chroniques 16, 9, il est dit que l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Et dans Psaume 147, 11, il est dit « L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. » Et l'idée, c'est un petit peu ce dont Abraham a fait preuve, c'est que Dieu cherche les gens qui se disent « Je sais que Dieu veut me bénir, je le crois que Dieu veut me bénir, donc quand il me demande de faire quelque chose, j'y vais. » Je me dis que ça, il me demande parce qu'il veut me bénir et je vais me lancer. Et il y a cette idée que Dieu cherche ce genre de personnes qui sont attachées à lui sans réserve et qui se disent « Dieu veut me bénir ». Donc quand il me demande quelque chose, je suis content d'y aller parce qu'il veut me bénir. Et c'est un petit peu une espèce de relation vertueuse qui peut aller de bien en bien en quelque sorte. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, il veut nous bénir. Et on voit ici que Dieu, dans cet appel et dans cette bénédiction, il y a 7 éléments. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu deviendras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est ce qu'on appelle, alors c'est cette idée, cet appel, ces bénédictions qui sont promises, sont répétées plusieurs fois. Abraham, il a besoin que Dieu lui répète les choses. C'est pas un super-héros de la foi, il est comme nous, il est un homme comme nous qui doute. Il a 99 ans, Dieu lui dit « je vais te donner un fils » et il dit « bon, ouais, ben on va faire preuve de créativité pour ça, on va penser en dehors de la boîte, pour ainsi dire. Et cette alliance que Dieu va nouer avec Abraham, on parle de l'alliance abrahamique. Et on le voit après quand Dieu va entre guillemets faire ce contrat avec Abraham. On a dit qu'il demande à Abraham de préparer un sacrifice. Et à l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait l'animal en deux et il faisait une sorte de figure, un 8, où il passait au milieu de l'animal. Et c'était une sorte de manière de dire « J'ai conclu cette alliance avec toi, voilà les termes de l'alliance. » Et c'était leur manière à l'époque de le signer. Et en fait, Dieu demande à Abraham donc de préparer des animaux pour faire ça. Et en fait, Dieu, à ce moment-là, endort Abraham et Dieu va, lui, passer au milieu des animaux. Et l'idée, c'est que cette alliance avec Abraham dépend uniquement de Dieu. C'est pas quelque chose qui dépend d'Abraham, de son obéissance et du fait qu'il agit comme il faut. Mais c'est vraiment cette idée que Dieu dit « Je pose les termes du contrat et je vais les accomplir moi. » Et on voit qu'il va réitérer les mêmes promesses envers Isaac et Jacob, malgré le fait que leur vie n'ait pas forcément toujours été digne de ce qu'on pourrait attendre d'un père de la foi. Et il y a trois choses majeures dans cette alliance abrahamique. Il y a cette idée que toutes les nations de la terre seront bénies. Il y a cet amour de Dieu pour tous les hommes. Il choisit une nation spéciale par Abraham, mais il veut bénir toute la terre et tous les hommes. C'est avec l'arrivée du Messie et l'arrivée de Jésus, on le sait avec la vue a posteriori. Il promet d'en faire une nation et il promet de protéger ce peuple et cette nation. C'est d'ailleurs une des grandes reproches que Dieu fait plus tard, à l'époque où va arriver Jésus, c'est cette idée que le peuple juif avait pris ses promesses et avait enlevé la partie de bénir les nations autour et avait dit « Nous, on est spécial, Dieu nous a choisis, on s'isole, on fait notre propre truc, et les autres, tant pis pour eux. » Et Dieu dit « Non, je veux bénir tout le monde et pas juste vous. » Il y a cet épisode, on va regarder un petit peu par points, certains des points par rapport à son histoire. Il y a cet épisode avec les 9 rois, qui est un petit peu bizarre. Il y a une bataille entre des rois, et puis certains rois gagnent et vont faire prisonnier Lot, parce qu'il est dans la ville de Sodome. Et Abraham va intervenir pour le sauver. On voit que Dieu est déjà l'aide déjà et qu'il a un petit peu la faveur de Dieu dans ce genre de situation. Et après cette bataille, il y a ce personnage bizarre, Melchizedek, le roi de Salem, qui est mentionné. Et c'est quelqu'un sur lequel on pourrait passer assez simplement s'il n'y avait que cette référence. Il y a juste quelques lignes, si vous voulez regarder dans Genèse 14, c'est la deuxième partie du chapitre, et on voit à partir du verset 18, « Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. » Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Et il n'y a que ça. On ne sait pas trop d'où il sort, on ne sait pas d'où il vient. Et il revêt une importance parce que la Bible en parle plus tard dans le Nouveau Testament. Il y a un passage aussi dans les psaumes. Psaume 110. Je peux vous le lire, 110, verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. On voit qu'il y a une sorte d'importance de cet ordre de Melchizedek. Tu es prêtre à la manière de Melchizedek. Et surtout le passage où il y a vraiment une grande attention qui lui est apportée, c'est dans Hébreux, les chapitres 5, 6 et 7 parlent de ce Melchizedek, et c'est pour ça qu'on prend le temps de s'y attarder. Si ça vous intéresse de les lire, les passages, vous pouvez lire les chapitres en question. Je vais juste dire que Melchizedek, ça veut dire roi de justice. Salem, ça veut dire la paix. On pense que Salem, c'était la ville qui va devenir Jérusalem. Et ce personnage, donc Melchizedek, est à la fois roi et sacrificateur. Dans l'histoire d'Israël, les sacrificateurs, les prêtres, étaient une portion du peuple qui était séparée. Il y avait les rois qui étaient d'une des tribus d'Israël, et il y avait les lévites qui étaient les prêtres et qui étaient attachés à tout ce qui était culte dans le temple, etc., ou dans le tabernacle. Et dans Hébreux, en fait, on nous explique que Jésus est de ce même ordre-là, qu'il est roi de justice, qu'il est roi de paix. Et il y a cette idée qu'il a un rôle qui est similaire à Melchizedek. Et dans le texte, dans Hébreux, ils argumentent en expliquant que comme Abraham a payé la dîme à ce personnage, c'est quelqu'un de plus important qu'Abraham. C'est quelqu'un qui est au-dessus de cette alliance et de ce qui va suivre avec la nation juive, et cette idée qu'il est supérieur à l'ordre même des Lévites, et qu'il y a un ordre qui est supérieur à tout le culte religieux qui va venir avec la nation d'Israël. C'est de là d'ailleurs que vient un petit peu l'idée de la dîme, c'est de ce passage-là. Et il y a même une idée où certains commentateurs et théologiens vont plus loin en disant que peut-être que ce personnage de Melchizedek était une forme, ce qu'on appellerait une forme préincarnée de Jésus, une sorte d'apparition de Jésus, parce que dans Jean, et c'est intéressant de s'y tourner, dans Jean 8, au verset 56, il est écrit: votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et cette petite interaction où il fait en quelque sorte allusion au fait qu'il ait vu Abraham, les théologiens disent ben peut-être que ce Melchizedek dont on parle, en fait, c'était peut-être une vision de Jésus. Et c'est intéressant de noter, si vous notez aussi dans la Genèse, dans le passage, alors c'est un passage tellement bref, mais regardez, qu'est-ce qu'il fait ? Melchizedek, roi de Salem, fait apporter du pain et du vin. Presque comme la communion. Et de se dire, dans la Genèse, quand on fait ces rapprochements avec le Nouveau Testament, on sait que ces livres ont été écrits très longtemps avant tout ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Et ces petits détails, ces petites choses qui ressortent, sont pas des coïncidences qui sont là pour rien. Donc ça reste un personnage un petit peu mystérieux, mais si vous voulez lire dans Hébreux, il y a des choses qui donnent un petit peu plus de dimension, d'épaisseur à ce personnage. Par rapport à la promesse que Dieu fait à Abraham, quand on regarde en détail, on peut voir que le territoire qu'il lui promet pour la nation est beaucoup plus grand que le territoire que n'a jamais occupé Israël dans l'histoire. Il lui promet un territoire qui va de la Méditerranée à l'Euphrate, c'est-à-dire quasiment jusqu'à l'Irak, et jusqu'en Égypte, donc vraiment une portion très très large. Israël, ils n'ont jamais occupé qu'une partie assez proche de la mer Méditerranée, mais il me semble qu'ils n'ont jamais occupé ne serait-ce que la moitié de ce que Dieu leur promet par rapport à ce texte. C'est intéressant d'y penser et de voir, notamment avec la situation actuelle et pourquoi ils sont restés. Et c'est un petit peu l'idée qu'il y avait une désobéissance. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu pour vraiment s'étendre et prendre toute la place. Ils ont dit: non, c'est bon, ça me suffit, je suis confortable, là, j'ai un truc pas trop mal, je vais pas aller voir plus loin. Et c'est à cause de la désobéissance qu'ils n'ont pas occupé tout le territoire. Et on pense que à la fin des temps, ce qu'on verra dans Apocalypse, il y a une période qui s'appelle le millénium où Jésus va venir régner sur terre, et on pense qu'à ce moment-là, il va accomplir pleinement la promesse en leur donnant le territoire vraiment qui a été promis ici. Parce que sinon, on pourrait dire, Dieu, il a fait une promesse et c'est jamais arrivé. Ça, c'est pas encore arrivé. Et la réponse ou l'idée correcte. À ce point de vue, c'est important aussi de se rappeler que les prescriptions et les choses que Dieu, les promesses que Dieu donne, sont des promesses qui sont faites pour toujours. les promesses que Dieu fait dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, il en est question, dans Hébreu 6 et dans Galates aussi, Paul en parle, et cette idée que quand Dieu fait une promesse, quand Dieu signe un contrat avec quelqu'un, c'est pas parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe que ça annule l'ancienne alliance ou clause, et qu'il y a donc un projet qui continue, ses promesses vis-à-vis d'Israël, ses promesses vis-à-vis des descendants d'Abraham restent vraies. Et il va avoir, on pense, l'accomplissement par rapport qu'on peut voir dans l'Apocalypse vis-à-vis du peuple d'Israël. On a parlé, j'ai mentionné la circoncision qui a été donnée comme un signe de cette alliance et d'une séparation du peuple d'Israël avec les autres peuples. Et il est intéressant de noter, pour une question scientifique et par rapport à la Bible et l'intérêt scientifique que peut avoir la Bible, c'est l'idée que Dieu leur dit de circoncire les enfants au huitième jour. Et on peut se dire, mais pourquoi le huitième jour, etc. C'est un petit peu, pourquoi pas le deuxième, pourquoi pas le quinzième, etc. Et la science moderne a en fait trouvé que le huitième jour, c'est le meilleur jour pour circoncire un enfant parce qu'il y a des phénomènes physiologiques qui permettent à l'enfant de mieux guérir et de mieux cicatriser le huitième jour qu'avant ou après. C'est vraiment le jour optimal. Il y a une augmentation de certaines enzymes et certaines vitamines qui permettent de cicatriser le mieux le huitième jour. Et ça date d'il y a une trentaine d'années. Et donc c'est peut-être, enfin après. Mais disons que l'idée, c'est que la science, jusqu'à aujourd'hui, disait, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, ils ont dit, en fait, Dieu, il sait bien ce qu'il fait. Ouais, il a créé l'homme, il sait que c'est bien. Et ça aussi, c'est une coïncidence ou quelque chose. C'est la Bible qui est fascinante à ce niveau-là. C'est intéressant aussi de réfléchir au fait que les choses qui sont promises à Abraham le sont avant que Dieu ne donne la loi au peuple d'Israël. Et l'idée que Dieu leur promet, encore une fois, sans l'idée de condition. Dans notre tête, on peut se dire, oui, d'accord, Dieu a promis ça au peuple d'Israël, mais s'il respecte les 10 commandements, etc. Mais en fait, non. Il a promis à Abraham avant de donner la loi. La loi vient après, il y a elle a son importance, mais l'alliance que Dieu contracte avec Abraham est avant et ne dépend pas de ce qui est donné après dans la loi. Ishmaël a une importance, c'est le fils aîné d'Abraham, c'est dans le chapitre 16. Donc je vous disais que Abraham disait, je ne sais pas trop comment je vais avoir un enfant, donc ma femme, elle est trop âgée, donc moi, je vais aller voir sa servante, et puis on va faire un enfant comme ça, je lui donnerai mon nom de famille, et c'est bon. Et je vous ai dit que c'était une coutume à l'époque. Et ce Ishmaël, avec plus tard le descendant de Jacob, qui s'appelle Ésaü, et la dernière, après la mort de Sarah, Abraham va avoir une dernière femme, Ketura. Et en fait, on dit que au niveau des nations, les peuples arabes descendent de Ishmaël, Ésaü et Ketura. Et donc, c'est un petit peu ces peuples-là de là qui sont le fruit de cet enfant et de ce que Abraham a fait. Et la Bible nous parle et met en opposition Ishmaël et Isaac. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder dans Galates 4, des versets 21 à 31. Et en fait, Paul dit en quelque sorte que Ishmaël, c'est le fruit des œuvres du travail de l'homme, d'un manque de foi, de dire « Dieu, c'est bon ». Je vais me débrouiller tout seul, je vais m'en occuper, j'ai trouvé une solution, je vais travailler. Et le fruit, plus tard on sait que les peuples arabes vont être constamment opposés au peuple d'Israël et vont être une source de problèmes continuels et encore de nos jours. et qu'Isaac, lui, est le fruit de la foi en Dieu, la foi en la promesse de Dieu, en disant « Je vais attendre que Dieu offre la solution de ce qu'il a promis » et qu'en quelque sorte, Isaac, c'est le fruit de l'esprit. Paul en parle donc dans Galates. Ça n'est pas pour dire que Dieu n'aime pas les Ishmaélites ou les Juifs ou qu'il y ait une opposition, mais il y a une réalité, et il y a une réalité aussi dans nos vies, c'est-à-dire que quand on va travailler dans la chair, on va essayer de trouver par nos propres moyens de dire à Dieu « je vais faire ce que je veux, comme je veux », ça amène des conséquences, même si Dieu nous pardonne plus tard, il y a des conséquences pratiques, et on voit qu'avec Abraham, ça donne des conséquences pratiques qui durent jusqu'à nos jours. Ouais, donc c'est là aussi. Alors il y a plein de choses, plein d'exemples, et on peut étudier ce que dit Paul quand il oppose les deux. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut parler. Je voulais m'attarder un petit peu brièvement sur Sodome et Gomorre avec ce, on a vu ce marchandage bizarre où je vous disais que Dieu disait à Abraham, je vais détruire ces deux villes parce qu'elles se comportent mal, notamment avec l'homosexualité qui était admise par la société de ces villes. Et Abraham qui fait cet aller-retour, s'il y en a 50, s'il y en a 40, s'il y en a 30, s'il y en a 10. Et finalement, Dieu fait sortir ce personnage Lot et détruit les villes ensuite. Et c'est intéressant parce que c'est encore une fois un type, un petit peu comme avec le déluge, l'idée que Dieu a sauvé les 8 justes de son jugement. Ici, avec Sodome et Gomorre, il va sauver les justes du milieu, il va les ôter avant de déverser son jugement et sa colère sur ces deux villes. Et on peut y voir un type, encore une fois, de l'enlèvement de l'Église, du fait que ce que moi je crois que Dieu... Encore une fois, il y a différentes interprétations par rapport à l'enlèvement de l'Église, mais je crois que Dieu va, de manière miraculeuse, enlever l'Église, les justes, en quelque sorte, avant de juger le monde à la fin des temps, de déverser vraiment sa colère sur l'humanité. Et on peut le voir maintes fois, cette idée que Dieu, pour un juste, pour un petit nombre de justes, va les enlever avant de finalement... déverser sa colère sur les hommes. Les villes sont détruites. La normalisation ou l'acceptation de l'homosexualité par une société ou par une nation, par une civilisation, dans l'histoire...
Ça vient de là.
Oui. Sodome est un mot qui reste dans la culture commune. Et... c'est en général un mauvais signe dans l'histoire, pour les peuples, quand elles font de ces choses-là une normalité. Elle viendra pas ce soir.
Ah,
la mise à l'épreuve d'Abraham avec Isaac, ce sera le dernier point qu'on va regarder dans la vie d'Abraham. Dieu lui demande donc d'offrir ce fils qu'il a sur la fin de sa vie, sur le tard. Il a ce fils issu de la promesse après avoir patienté des années et des années. C'est 25 ou 30 ans qu'il a attendu avant d'avoir, entre le moment où Dieu l'appelle et lui dit « je vais faire de toi une nation » et le moment où il a Isaac, il se passe vraiment une période très longue. Et Dieu lui demande de sacrifier son fils, C'est quand même, on peut se dire que Dieu est un petit peu cruel, hein, ou qu'il y a quelque chose vraiment de tordu dans cette histoire. En note, quand il est décrit dans le passage, si vous voulez vous y tourner, c'est dans la Genèse 22. Au verset 2, Dieu lui dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. » Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. C'est la première utilisation du mot amour dans la Bible. Prends ton fils unique, celui que tu aimes. dans la Bible, il y a quelque chose d'important et de qui est qu'on appelle comment est-ce qu'on dit, j'ai l'homme blanc là, mais l'idée que quand il y a un mot dans la Bible, il est toujours bon d'aller regarder la première occurrence pour essayer de voir l'utilisation qui en est faite, pour ensuite comprendre le reste de la Bible. Et là, il y a cette idée que l'amour entre un père et un fils et donne quelque chose par rapport à l'idée de l'amour et quelque chose de normatif. Et toute cette histoire est vraiment un type incroyable qui encore une fois fait presque froid dans le dos ou qui fait sourire tellement les coïncidences avec l'histoire de Jésus sont proches. On a vu qu'Abraham lui obéit. Il part, il prépare tout comme s'il allait le faire, et au moment où il va passer à l'acte, Dieu l'arrête et lui dit non, prends ce bouc qui est là-bas et offre ce bouc à la place. Quand on regarde, on voit que Abraham, entre le moment où Dieu lui dit vas-y et le moment où il arrive au lieu, c'est verset 4, c'est le troisième jour. Les commentateurs disent d'une certaine manière, pour Abraham, il considérait Isaac comme étant mort pendant 3 jours. D'une certaine manière, il se dit dans son esprit, Isaac est mort et ça le prend et il a ça lui trotte dans l'esprit. Il se dit bon bah, il est mort. Dans Hébreux 11, versets 17 à 19, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts, c'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est la foi. Et au verset 8, on voit Abraham qui dit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même un agneau pour l'Holocauste. » Il croit, il sait que Dieu va faire quelque chose, il sait que Dieu a promis ce fils et il fait confiance. Il dit « Dieu va faire quelque chose pour que tu t'en sortes. » On pense aussi que cette montagne, ce lieu, Moria, est peut-être le même lieu où Jésus est sacrifié. Où il y a eu la croix plus tard, Golgotha. Ils font les rapprochements. J'ai pas la référence, mais il y a d'autres références à ce mont Moria. Et les théologiens s'accordent pour penser que c'est le même endroit. On voit donc que c'est vraiment quelque chose de fou, cette idée que Jésus, le Fils de Dieu, plus tard, qui va être considéré comme l'agneau qui est offert en sacrifice et qui va couvrir les péchés du monde. Et ici, que c'est Abraham et son fils. Mais aussi cette phrase où Abraham dit c'est Dieu qui va lui-même pourvoir un sacrifice pour couvrir les péchés. C'est l'idée, là aussi, annonciatrice de Jésus qui allait venir et qui allait être offert plus tard. C'est vraiment... Là aussi, on peut faire toute une étude, tout un enseignement, rien que par rapport à cette comparaison avec ce qui se passe avec Jésus. Ça va même plus loin quand on lit la suite de l'histoire avec dans la Genèse 24. On voit que Abraham demande à son serviteur, qu'on pense c'était toujours son serviteur dont il est fait référence plus tard, qui s'appelait Eliezer, qui est ce qui voulait dire consolateur ou aide. Et Abraham va demander à ce serviteur d'aller chercher une femme pour son fils. Et là aussi, il y a un parallèle avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, et l'Esprit Saint qui est le consolateur, et l'Église qui est considérée comme la femme de Jésus, l'épouse, et qu'en quelque sorte Dieu va donner l'Esprit Saint pour aller chercher l'Église pour pouvoir une épouse pour son fils qui est Jésus. C'est fou. On voit aussi, il y a des commentateurs qui s'attardent aussi sur le fait qu'entre le moment où il y a cette histoire, on parle de Abraham qui allait offrir en sacrifice Isaac, entre ce moment-là et le moment où Isaac vient rencontrer son épouse, il n'en est pas question. Et donc il y a des commentateurs qui disent là aussi, il y a l'idée que Jésus, après son sacrifice, est monté au ciel et il ne va revenir qu'une fois qu'il est prêt et que son épouse est prête à le rencontrer. Donc il y a plein de parallèles qu'on peut trouver dans ces histoires. C'est vraiment fou, encore une fois, de se dire que ces choses ont été écrites tellement longtemps à l'avance et qu'il y ait tellement de similitudes. Isaac. Son histoire se développe entre les chapitres 21, donc ce qu'on a vu, et jusqu'au chapitre 26. C'est assez bref comparé à Abraham. Il est marié à Rebecca. Ils vont avoir deux fils jumeaux, Ésaü et Jacob. On verra l'histoire de Jacob après. Ils vont habiter à Guérar, là où était Abraham à un certain moment. Dieu va reconfirmer son alliance avec Abraham, il va dire à Isaac, je te fais les mêmes promesses qu'à ton père. Plus tard, avec l'histoire de Jacob, Isaac va bénir Jacob après une histoire un peu rusée entre ses deux fils. Et Isaac va vivre, a priori, à Mamré jusqu'à la fin de sa vie. Son nom, Isaac, veut dire « éclat de rire ». Et c'est sa mère, Sarah, qui quand Dieu lui avait fait la promesse à Abraham, elle avait rigolé. Et c'était un petit peu en mémoire de ce moment-là où elle a dit, en fait, je riais de manière sarcastique ou ironique, et en fait, je ris de joie maintenant que j'ai vraiment le fils. C'est l'histoire qui est présente dans la Genèse est assez courte, donc on voit pas beaucoup de détails sur Isaac. Ça passe très rapidement sur l'histoire de ses jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Isaac va vivre jusqu'à 180 ans. On voit dans la Genèse 35 une petite note où c'est indiqué qu'il décède. Mais on passe assez rapidement à Jacob, donc des chapitres 27 à 36. Et en fait, à la naissance, il y a cette question que les deux sont nés, mais il y a Jacob qui sort en s'accrochant au talon de son frère. Et il est donc le deuxième fils. À l'époque, il y avait l'importance du droit d'aînesse, de la bénédiction qui était accordée au fils aîné. Et le fils aîné Ésaü se moque un petit peu de ce droit, n'est pas très concerné par ça, et Jacob vient le voir et lui dit, est-ce que je peux l'avoir? Et donc il y a une histoire un petit peu sordide avec Jacob qui se déguise, qui trompe son père, qui voit plus très bien et qui obtient, donc il pense que c'est son fils aîné, et Isaac va le bénir, lui Jacob, en pensant que c'est Ésaü, et ça va lui causer des problèmes le reste de sa vie. Et son nom, a priori, veut dire celui qui trompe ou qui ruse. C'est un petit peu un usurpateur. On le voit dans toute son histoire, qu'il y a beaucoup de petits problèmes avec les gens autour de lui, avec les personnes avec lesquelles il a affaire. Et suite à cette histoire avec son frère, où il obtient le droit d'aînesse de la part de son père, il est contraint de s'en aller. C'est un petit peu la guerre. Donc il part chez un certain Laban, qui est son oncle, si je me rappelle bien, pour trouver une femme. On était à une époque où il n'y avait pas encore de règles par rapport au mariage dans les familles. Et si on regarde d'ailleurs la descendance d'Abraham, on voit qu'il y a pas mal de mariages entre des cousins ou neveux, enfin des choses un petit peu au sein de la même famille. Tous des descendants de ce personnage Terah, dont on avait dit qui est le papa d'Abraham. Donc Jacob, Abraham lui dit va chez ton oncle et va là-bas et peut-être que tu trouveras une femme là-bas. Donc il part là-bas, c'est un petit peu un retour depuis le pays de Canaan vers le pays d'où était parti Abraham initialement, et il tombe amoureux d'une certaine Rachel, fou amoureux, et Laban lui dit « Travaille pour moi pendant 7 ans et puis je te la donne comme femme ». Donc il travaille pendant 7 ans et le soir de la nuit de noces, ils font la fête, ils saoulent bien et le papa lui file la sœur aînée, Léa, donc il le trompe. Et c'est des histoires avec les coutumes de l'époque, encore une fois. Et donc il se retrouve avec la femme Léa, il est énervé, il se réveille le matin et c'est la mauvaise surprise. Et,
Rachel.
Laban lui dit « Retravaille pour moi 7 ans et je te donnerai maintenant Rachel ». Donc il retravaille 7 ans et en tout, et donc à ce moment-là, il a Rachel. D'ailleurs, cette histoire est assez comique dans le sens où c'est un petit peu l'arroseur arrosé, celui qui trompe, qui se retrouve un petit peu en problème. Dans la Bible, il est dit qu'il aimait tellement Rachel que ça lui a semblé comme rien, parce qu'il était amoureux, et voilà. Ouais, voilà. On va voir d'ailleurs qu'il va avoir des enfants avec plusieurs femmes, mais que les enfants de Rachel sont ceux qu'il chérit le plus. Et suite à ça, alors il grandit en influence et il décide de partir. Il a des histoires avec Laban, il a des histoires après avec son frère, quand il revient vers là où habite son frère, qui un petit peu, il se dit « Mon frère, il doit toujours avoir un petit peu une dent envers moi à cause de ce que j'ai fait. » Donc il s'arrange, il se réconcilie à peu près. Il voyage un petit peu, il a plein d'enfants, il va s'enrichir beaucoup. On voit un épisode où il a une vision d'une échelle qui monte au ciel et puis Dieu va lui parler et va réitérer la promesse qu'il avait faite à Abraham et à Isaac. Et il lui dit, toi aussi, je te fais la même promesse. Ça, c'est Genèse 28. Les versets, on peut s'y tourner, tant qu'on y est. Versets 13 à 15. L'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle qu'il voyait. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Donc il a cette vision, cette même promesse. Et on verra après la transition ensuite qui passe sur son fils Joseph. Et on va regarder cette histoire après. Quelques notes sur Jacob. On voit toute sa vie est passée, il y a une lutte, il y a un petit peu une bagarre. Enfin, il est toujours un peu en conflit avec tout le monde autour de lui, à ruser. Et il y a même un petit épisode où la Bible nous dit qu'il lutte avec Dieu. Il y a une nuit où il y a un personnage qui apparaît, si c'est un ange ou une forme un peu préincarnée de Jésus peut-être, et il y a une lutte, et cette personne dont la Bible nous dit que c'est Dieu lui déboîte la hanche un petit peu, et lui il s'accroche et il dit non, je ne vais pas abandonner, je ne laisse pas tomber, je veux que tu me bénisses. Et Dieu va le bénir, et c'est à ce moment-là Dieu va lui donner un nouveau nom et va l'appeler Israël, par rapport à cette bénédiction. Et donc c'est de là que vient l'idée de la nation d'Israël. C'est le nom que Dieu donne à Jacob une fois qu'il est en quelque sorte arrivé au bout de lui-même. C'est-à-dire qu'il a lutté toute sa vie et là c'est un petit peu comme si au final il lutte avec Dieu et que Dieu le... Finalement il arrive au bout de lui-même et c'est à ce moment-là qu'il devient Israël. Jacob, il a plein d'enfants. Genèse 35, verset 23 nous donne le résumé. Et en fait, il a, donc par sa première femme, Léa, la sœur aînée, il a 6 enfants, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon.
Ah, mais il avait
épousé. Oui, il l'a gardé, oui. Mmh. Oui, il l'a gardé. Par la servante de Léa, donc encore une fois, avec les servantes, il y a des histoires d'enfants, Zilpa, il a eu deux fils, Gad et Aser. Par Rachel, donc cette femme qu'il aimait, Joseph et Benjamin, et par Bilha, la servante de Rachel, il va avoir Dan et Nephtali. Et en fait, ces 12 noms sont les 12 noms des tribus d'Israël. Donc, c'est ces enfants qui donnent les 12 tribus et qui vont avoir une importance tout au long de l'histoire de la Bible. Dans son histoire à Jacob, on voit des épisodes avec les caractères des frères qui vont donner des conséquences par rapport au rôle et à certaines des choses qui vont se passer plus tard avec les différentes tribus d'Israël qui ont leur rôle un petit peu, leurs caractéristiques, etc. Donc ces noms, dans toute la suite de l'étude de l'Ancien Testament, vont revenir sans arrêt. Il y a un tel qui était de telle tribu et c'est le nom de un de ses fils qui donnait la tribu qui s'en suivait. Et jusqu'à nos jours, les Israélites essaient de retracer. Ils ont du mal maintenant à cause des histoires, mais ils essaient de retracer leur généalogie pour savoir dans quelle tribu ils sont. Ça revêt une importance particulière pour le peuple d'Israël. Et maintenant, on va terminer avec l'histoire de Joseph, qui donne la fin du livre de Genèse, des chapitres 37 à 50. On voit que c'est le fils de Rachel, cette femme qui était sa femme chérie, et il adore ce fils Joseph, c'est le chouchou de son père, il a le droit à une, dans l'histoire, il a le droit à une tunique spéciale, son père lui offre une tunique multicolore, en signe de un petit peu de c'est toi mon préféré, et ça énerve ses frères, évidemment, et il va avoir des rêves, ce Joseph. Et il vient les raconter à sa famille, et dans les rêves, ce qu'on peut comprendre, c'est plus ou moins qu'il dit, vous, mes frères, vous allez vous agenouiller devant moi, je vais être au-dessus de vous, en quelque sorte, je vais régner, ou je vais être plus grand que vous. Ça achève d'énerver ses frères, qui, il est déjà le chouchou, et là, il leur dit, vous allez en plus être soumis à moi. Donc, ils décident de le tuer, ils complotent, et ils se disent, on va le zigouiller, on en a marre. Et au dernier moment, ils changent d'avis et ils le vendent à des marchands d'esclaves qui, ces marchands, l'amènent et le revendent en Égypte à un certain Potiphar, qui est un personnage d'une importance certaine en Égypte, qui est riche. Et il va servir avec beaucoup de succès ce personnage, se rendre très utile et devenir le serviteur principal de ce personnage. Et la femme de ce Potiphar va vouloir coucher avec lui. Il refuse et elle va le dénoncer de manière calomnieuse. Et Potiphar le fait jeter en prison à ce moment-là. Il reste en prison pendant quelques temps et il se retrouve dans une situation pour interpréter deux rêves pour des personnages qui finissent en prison avec lui et qui sont le grand échanson et le grand panetier du roi d'Égypte, enfin du pharaon. Et il va interpréter un rêve pour chacun de ces personnages qui s'accomplissent comme il les interprète. Et le grand panetier retourne plus tard chez le pharaon Et quelques années plus tard, le pharaon a un rêve, des rêves que personne n'arrive à expliquer. Et ce grand panetier dit « Ah, je me souviens d'un gars en prison qui m'a expliqué un rêve et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a expliqué, c'était accompli. » Le pharaon fait donc appel à Joseph. Il lui dit « Viens, explique-moi mes rêves. » Et ce sont des rêves où Dieu montre en quelque sorte qu'il va avoir cette année de grandes richesses et d'abondance au niveau de l'agriculture et du pays, et qu'ensuite il va avoir cette année de famine. C'est l'expression en français des vaches maigres, vient de l'histoire de Joseph, les vaches maigres, les vaches grasses, parce que c'est le rêve que fait le pharaon, et Joseph lui explique qu'il va avoir des années de faste et qu'ensuite il va avoir des années de troubles, et le pharaon le met à la tête de tout en mode premier ministre pour préparer pendant ces 7 années, pour les 7 années de famine qui vont venir. Et quand elles arrivent, la famille de Jacob va venir, ses frères en fait vont venir chercher des denrées, de quoi manger en Égypte, et vont s'agenouiller devant lui, et donc le rêve qu'il a fait quand il était petit s'accomplit. Ils reviennent deux fois et Joseph va finalement se révéler à eux, se dire « Je suis votre frère que vous aviez vendu il y a tant d'années que vous pensiez que j'étais parti. » Et à ce moment-là, il se réconcilie avec eux et leur dit « Non, je vous en veux pas. » Et il va dire « Ramenez mon père aussi, Jacob, fais-le venir avec toute la famille en Égypte, et de sorte à ce que vous puissiez vivre ici et bénéficier de l'abondance qu'on a ici en Égypte. » Joseph va avoir 2 fils, Ephraïm et Manassé, qui vont être importants et qui reviennent aussi dans les histoires des tribus d'Israël. On parle d'eux comme étant les 2 demi-tribus. Et dans l'Ancien Testament, dans les récits qui vont suivre, parfois on a Ephraïm et Manassé dans la liste des tribus, pour différentes raisons, ils remplacent. Et on voit, d'ailleurs, il y a une histoire, à la fin, Joseph demande à Jacob de bénir ses fils avant de mourir. Et Jacob va invertir les mains d'Éphraïm et de Manassé. Et on voit que ça a son importance quand on voit la lignée de Jésus avec les familles par lesquelles arrive Jésus, il y a cette lignée qui est invertie, et c'est par rapport à la bénédiction que Jacob donne. Encore une fois, on a vu souvent la lignée traditionnelle, en ses coutumes, c'était le fils aîné, et Dieu souvent sélectionne le deuxième fils, le plus petit. On a vu Cain et Abel, on a vu Jacob et Ésaü. Il y a plusieurs fois des histoires où c'est pas l'aîné. Dans le peuple d'Israël, plus tard, on verra David, qui est le plus petit d'une fils avec plein de frères aînés. Et c'est Dieu qui dit « Non, c'est moi qui décide lequel est digne d'être choisi pour mon projet. » Quelques notes sur la vie de Joseph, et puis on aura terminé. Joseph est un exemple de l'idée qu'on doit toujours faire du mieux qu'on peut, quelle que soit notre situation, quelles que soient les tâches qui nous sont données. Quand il est en prison, il va servir du mieux qu'il peut, et Dieu va s'en servir pour le bénir. Quand il est esclave chez ce Potiphar, il va faire du mieux qu'il peut et ça va le bénir aussi. Et c'est un exemple de cette idée qu'on doit toujours faire du mieux qu'on peut, quelle que soit notre situation. C'est ce que Dieu veut pour nous, qu'on dise on m'a demandé de faire ça, je vais faire du mieux que je peux pour ta gloire. Si tu peux t'en servir, Jésus, amen. Et c'est vraiment un type de ça. On voit aussi des parallèles entre Joseph et Jésus. On peut encore une fois voir cette idée que Joseph est un type de Jésus, est une préfiguration. Il est rejeté par ses frères. Il souffre injustement. Et au final, le salut vient par lui. Le salut de ses frères vient par lui. Et il y a quelque chose qui est vraiment beau dans la fin de son histoire, quand il se réconcilie avec ses frères. Il leur dit, dans la Genèse 50, verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et là aussi, c'est vraiment...
C'est quel verset que tu viens de lire ?
Genèse 50, verset 20. Cette idée que Dieu va retourner la situation avec Jésus aussi, où Satan pense triompher, pense avoir gagné, et en fait, Dieu le retourne et s'en sert pour bénir un peuple nombreux, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est vraiment beau ce que dit Joseph, et là aussi, encore une fois, on peut voir ce qui se passe avec Jésus à travers ce qui se passe avec Joseph. Voilà, c'est tout pour ce soir.